beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui ont eu un peu de réussite, sont prompts à raconter qu'un matin, ils se réveillent et ils sont frappés par la grâce, la lumière descend sur eux. Et moi, franchement, si un jour la lumière était descendue sur moi, la grâce divine, je serais dans le business de la religion, quoi. Je ne ferais pas dans la tech.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pourrez bientôt retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Un livre qui se veut être une invitation à la réflexion et une méthode pour trouver la clé de l'épanouissement, l'alignement. Un véritable message d'espoir, nourri par mes expériences, mais aussi celles des invités exceptionnels que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro. Rendez-vous le 13 mars prochain pour le découvrir. Maintenant, place à l'épisode. L'expression « je te fais un Lydia » a totalement intégré le langage courant, et ça c'est grâce à mon invité d'aujourd'hui, le cofondateur de Lydia. Né à Marseille, il grandit près de la mer avant de monter sur Paris pour ses études. S'il pense d'abord à se consacrer à une carrière en marketing international dans le luxe, c'est finalement vers le monde informatique qu'il trouvera sa voie avant que l'entrepreneuriat ne l'appelle. En 2013, il se lance dans la grande aventure de solutions de paiement en ligne Lydia, qui s'est imposée en tant que leader dans son domaine, avec des millions d'utilisatrices et d'utilisateurs, avec 240 millions d'euros levés et le statut de licorne à la clé. Le temps d'une pause, l'entrepreneur passionné revient avec nous sur son parcours, sa vision du monde des startups et lève le voile sur sa success story. Bonjour Cyril Chiche.
Bonjour Alexandre.
Comment tu vas ?
Écoute, quand on est là, on peut caler bien, non ?
Je le disais en introduction, tu as grandi à Marseille au sein d'une famille assez aisée puisque tes deux parents étaient médecins. Tu as un petit frère et une petite sœur. Aucun de vous trois n'est devenu médecin. Ça a été un regret de la part des parents ? Pas du tout. C'était des généralistes ?
Non, c'était des spécialistes tous les deux. D'accord. Ma mère est dermatologue, mon père cardiologue. Donc voilà. Et je crois que c'est pas très difficile de dire que c'était pour eux un vrai engagement, une passion, une mission. Enfin, ils l'ont pas fait pour gagner de l'argent, clairement pas. Et sans doute que s'ils l'avaient fait pour ça, ils s'y seraient pris très différemment. Et je suis pas sûr que le fait de grandir dans un environnement avec tellement de passion pour l'autre et finalement d'abnégation de soi pour au profit de l'autre avec le téléphone de la maison, parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque, qui sonne la nuit pour
les urgences,
aller voir les patients chez eux et tout. Et ça nous a, ni à ma sœur, ni à mon frère, ni à moi, donné nécessairement envie de suivre cette carrière. On ne devait pas avoir autant la fibre qu'eux. Et donc, je pense, oui, qu'ils auraient adoré qu'au moins un d'entre nous devienne médecin. Ils ne nous l'ont jamais fait ressentir, ils n'ont pas voulu de ne pas l'avoir fait, et on est tous les trois entrepreneurs dans des domaines différents, mais oui, je crois qu'ils auraient adoré.
Mais donc, il y a plusieurs choses là, c'est qu'en fait, vous êtes rendu compte tous les trois que être médecin, généraliste ou spécialiste, c'est, si tu le fais comme l'immense majorité des médecins le font, c'est que tu es dédié aux autres, littéralement. Oui. Donc un petit peu moins à ta famille, ce qui faisait quand même, ils étaient quand même très souvent avec les patients. La chose la plus essentielle n'était pas forcément que vous, c'était aussi leur travail qui était
les
autres.
Alors non seulement ça m'a marqué, mais ça m'a marqué très jeune. Je vais te raconter une histoire qu'on m'a racontée, puisque je ne m'en souviens plus, j'étais tout petit, j'avais 5 ans. Et un jour, ma mère me retrouve avec un petit sac sur le pas de la porte de l'appartement familial. Et elle me dit, où est-ce que tu vas ? Et je lui dis, je m'en vais parce que, bon, visiblement, vous n'êtes jamais là, et donc ça ne sert à rien que je reste là. Donc je pense que ça lui a un peu crevé le cœur. Ça a donné lieu sûrement à quelques discussions après, sans moi. Et je ne suis pas parti. Je suis parti quelques années plus tard. Disons que ça m'aura pris 14 ans de plus pour le faire. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai ressenti visiblement très tôt. Pas comme un abandon, parce qu'on a eu la chance d'être très entouré dans une famille qui était pour le moins très famille. Mais au sens famille élargie. La famille nucléaire était très proche et la famille oncle-tante, c'était la famille nucléaire, parents, grands-parents, ouais. Tout le monde vivait ensemble, littéralement. C'est-à-dire qu'on allait, les grands-parents venaient dormir chez nous, on allait dormir chez les grands-parents, mes amis allaient déjeuner chez mes grands-parents sans moi. Tu vois, c'était ouais. Vraiment genre, c'est vraiment la famille très, très proche et très, très serrée, donc on n'a jamais manqué de ça. Mais c'est entendu que pour nous, c'était un métier qui nécessitait que tu t'abandonnes véritablement, non pas à l'autre, mais à chacun des autres. Et ça, c'était quelque chose que sans doute nous, on n'était pas prêts à assumer.
Alors là, on parle de liberté, parce que c'est vrai que souvent, on voit l'entrepreneuriat comme une source peut-être d'être libre, une volonté d'être libre. Souvent, quand j'ai des discussions avec des gens qui ne sont pas encore entrepreneurs ou qui ne sont pas encore lancés, et je leur pose parfois la question, une de leurs réactions, c'est « comme ça, je vais avoir ma liberté ». Cyril, est-ce que tu considères qu'avoir été entrepreneur, des années, encore une fois, tu as pris quelques années, est-ce que tu considères que ça t'a apporté cette liberté? Ou est-ce que justement, tu penses que c'est une fausse liberté parce que tu as des clients, tu as des actionnaires, des salariés, des collaboratrices, des collaborateurs?
C'est pas la liberté de faire tout ce que tu veux à chaque seconde. Je crois que personne n'a ça. C'est un mythe, c'est un fantasme.
C'est ça.
Ça n'existe pas. Ou alors, si, ça existe, mais à une période où tu ne t'en rends pas compte. Quand tu es jeune et insouciant et que tu es effectivement en train de dire « Tiens, quelle est la prochaine bêtise que je vais pouvoir faire ?» Mais tu n'en as pas conscience à ce moment-là. Et encore. Et donc, cette liberté-là, c'est la liberté de faire des choix forts, structurants, en toute conscience et en toute autonomie. C'est-à-dire, je peux décider de prendre une décision qui va engager véritablement, pas simplement moi, pas simplement quelques personnes, mais voilà, quelque chose de plus qui me dépasse. Donc ça, c'est la partie entrepreneuriat. Et ce dont je voulais m'affranchir en n'embrassant pas la carrière médicale, n'était pas la charge de travail, n'était pas le fait de penser à mon travail en permanence. C'est pas un truc qui m'a jamais fait peur. Et tu te lances pas dans l'entrepreneuriat, comme tu sais bien, si tu n'es pas tout le temps finalement en train de penser à ton entreprise. Tu y penses le jour, tu y penses la nuit, tu y penses en vacances, tu y penses en permanence, de la même manière que tu penses à ta famille quand tu travailles. Et les gens qui disent « moi, j'ai parfaitement cloisonné les deux », je pense que c'est un peu comme les gens qui ont une autre vie sur Instagram, quoi. Ils sont plusieurs dans leur tête. Ouais, c'est pas.
C'est un peu un mensonge.
Mais oui, c'est un peu un mensonge. Tout le monde pense à tout en permanence. Et la réalité, c'est que ce que je voulais pas avoir et ce qui était trop lourd pour moi, c'est porter la charge mentale de la maladie et la souffrance des autres. Et ça, c'était trop. Enfin, moi, je me sentais pas prêt. Je croyais que c'était. Je voyais l'impact que ça avait sur la psychologie et sur le moral de mes parents quand quelqu'un décédait, quand tu le voyais tout de suite, quoi. C'était tu le voyais de manière sans, il n'y avait pas besoin de le dire, tu le ressentais très fort. Et donc ça, je voulais pas de cette charge là et c'est pour ça que sans doute que j'ai pris la partie travail, liberté, enfin entrepreneuriat, ouais, et ouais. Pas médical. Il y a quand même une grande liberté que moi je constate et dont je me réjouis chaque jour, c'est la liberté de choisir avec qui tu travailles. Et ça, c'est quand même exceptionnel.
Tu te trompes souvent, d'ailleurs. Tu es souvent trompé dans les gens que tu as choisis. Tu t'améliores au fil des années?
Non.
C'est arrivé encore de te tromper?
Oui. Et je suis certain que... si j'étais le meilleur recruteur, je serais recruteur.
C'est ton métier?
Voilà, c'est ça. Ce serait mon métier. J'aurais monté une entreprise de recrutement. Et donc, clairement, je ne suis pas le meilleur recruteur. Je sais, par l'expérience, identifier des gens avec qui je vais pouvoir bien travailler. Des gens avec qui je vais être aligné sur les valeurs. Et je crois que le meilleur exemple de ça, c'est mon association avec Antoine Porte, mon associé dans Lydia. Parce que effectivement, on a fait un travail pendant 6 mois d'apprendre à se connaître et de s'assurer qu'on était très compatibles. 15 ans après ou 13 ans après, on est encore très proches.
Donc Antoine, ton cofondateur, on y reviendra dans quelques minutes.
Mais des erreurs de casting, on en fait régulièrement.
Non, pas souvent, mais régulièrement. Rassure-nous.
Oui et non, parce que oui et non, parce qu'en fait, tu n'es toujours que toi-même et peut-être une meilleure version de toi-même au fur et à mesure du temps.
On apprend quand même. Ouais, t'évites
les grosses bêtises.
Les grosses bêtises, tu t'es un peu amélioré. T'as deux enfants. Mm-hmm. Ce que t'as vu, toi, l'impact qu'a eu les trahis de tes parents par rapport à toi, pense, comment voient ça tes deux enfants qui sont jeunes adultes, tout ce qu'ils ont vu ces dernières années? Est-ce que tu les sens portés vers l'entrepreneuriat? Quel est l'impact que t'as pu avoir avec ton épouse?
C'est une question qui est très difficile à répondre, parce que je crois que tu te rends compte que beaucoup plus tard. Mais d'abord, il faut savoir que ces projets entrepreneuriaux, en tout cas pour moi, c'est un projet familial. Et je crois que c'est pareil pour mon associé, cofondateur. Et quand je dis un projet familial, ça veut dire que c'est tellement exigeant pendant tellement de temps que si c'est pas quelque chose qui est accepté et même voulu par la famille, ton conjoint, des enfants éventuellement, s'ils sont en âge de participer à cette réflexion-là, alors très vite, ça devient problématique, conflictuel, ni l'un ni l'autre vont bien, bon, et là, c'est généralement la catastrophe des deux côtés, quoi. Donc, pour pouvoir se consacrer de manière vraiment réelle et totale à cette ambition entrepreneuriale, alors il faut que ça soit un projet familial. Et moi, j'ai eu une chance inouïe d'avoir une épouse et des enfants qui m'ont donné cette liberté, cette chance.
Surtout une épouse, hein, parce que tes enfants, quand ils ont 13, 14, 15 ans, ils n'avaient pas forcément un mot à dire. Ton épouse aurait pu te dire...
Mon épouse, dès le début, et elle a toujours supporté cette... quand je dis supporter, pas au sens pénibilité, mais au sens soutien, exactement. Ouais. Ce projet-là et cette nature-là, et elle m'a donné de la liberté pour le faire, et de la liberté d'esprit. Parce que tu vas passer d'une situation où tu gagnes bien ta vie, t'es salarié, t'as un bon train de vie, vraiment jeune et compagnie, et soudainement, tu dis, bon, ok, voilà, on va pas se payer. Pendant combien de temps? J'en sais rien.
Tu te mets à risque.
Et donc, les vacances, tu feras gaffe, mais c'est terminé. Tu vois, la belle vie, ça va être... voilà. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et si tu le fais tout seul dans ton coin, ça va mal, évidemment que ça va mal se passer, mais ça veut dire aussi que ça impacte les enfants. Je vois bien que l'aîné, qui a connu vraiment les années difficiles de vache maigre, des débuts de l'IA et compagnie, il compte beaucoup plus ses sous, tu vois, tu lui donnes 100, il va dépenser pas beaucoup, il va économiser et tout. Et l'autre, qui est pas beaucoup plus jeune, mais 3 ans et demi quand même, qui a connu plutôt des un peu plus à l'aise, il prend des trottinettes et des vélos toutes les 5 minutes. Je pense qu'il y a une statue de lui dans le hall de Lime France. Donc oui, ça a un impact et on parle tout le temps à la maison.
Ouais, sans parler.
Tout le temps.
Et toi, tu penses...
Mais ils ne veulent pas être entrepreneurs.
Et ils veulent pas être entrepreneurs. Encore.
L'aîné, non.
Voilà. Là-dedans, par rapport à ce que toi, tu as vu avec tes parents, toi, tu dis, tu aurais fait des choses peut-être différemment avec tes enfants. Tu dis qu'il y a un moment ou un autre où le manque de présence, est-ce que l'entrepreneuriat qui parfois prend énormément de temps, d'esprit, de temps réel, en fait, est-ce que tu penses que tu as réussi à gérer au mieux possible parce que tu as vu cette expérience avec tes parents, ou toi aussi, un peu comme tes parents, tu t'es parfois laissé un petit peu embarquer par... ou t'as réussi à gérer au mieux?
J'ai très mal géré ça. Ouais. Et bien sûr, j'ai été très absent dans des moments très importants. Et c'est pour ça que j'ai eu une chance inouïe d'avoir mon épouse qui a compensé et qui était vraiment... qui s'est dévouée à cette compensation et à ses enfants. Et donc, elle a arrêté sa carrière professionnelle pour justement, moi, me permettre d'être pas aussi présent que nécessaire, sans que ça soit un problème, et sans que j'en conçoive aussi une culpabilité telle que ça devienne impossible à porter au quotidien. Et voilà, et pour autant, je saurais pas faire autrement.
Je disais qu'on parlait d'école à Marseille, t'étais pas un bourreau de travail, ce que j'ai compris.
C'est moi qu'on puisse dire.
T'avais des facilités, donc ça te permettait de passer assez bien quand même dans les classes supérieures. Ce que j'ai compris, c'est que ta passion était plus dans l'art, le design, que forcément dans les maths et les langues étrangères. D'où ça venait, ça? Parce que t'as des parents qui sont profession libérale, médecin. Qu'est-ce qui t'a apporté ça, ou...
J'en ai pas la moindre idée.
Tu sais pas?
Pas du tout. mais vraiment pas. Non, j'ai pas grandi dans un environnement où l'art était très présent d'une quelconque manière. Je crois que c'était plus une fibre personnelle, individuelle. Non,
mais ouais, jamais, ouais. Jamais un seul moment, quand t'avais 14, 15 ans, 16 ans, tu t'es dit t'allais être designer, architecte.
Non, alors j'avais assez jeune, je me suis rendu compte que j'avais des capacités en termes de dessin, mais ça c'est dès la 6e, qui était très limitée par rapport à beaucoup d'élèves dans ma classe. Donc ce chemin du design, de je pense qu'au bout de la 2e semaine de cours de dessin en 6e, j'avais déjà mis une croix dessus. Et pourtant, un de mes rêves à cette époque-là, c'était d'allier le design avec la technologie. Et c'était d'aller étudier à l'Art Center College of Design, qui était à cette époque-là le grand institut de formation de ceux qui allaient être les grands designers automobiles, notamment.
Mais en 6e, en 5e ?
Ouais.
Mais d'où tu avais trouvé même ce centre ? Comment tu avais trouvé cette information ? Il y a bien quelqu'un qui t'en a parlé ? Tu sais pas ?
Je ne saurais pas te dire. C'était il y a 2 ans, ouais.
On va parler de ses études, on va parler de 6e. Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. On l'écoute.
Bonjour Cyril. J'espère que tu vas bien. Comme tu sais, plusieurs de nos copains de notre classe de lycée sont devenus des entrepreneurs. Penses-tu que notre éducation ou notre enfance ait un lien avec ce nombre élevé d'entrepreneurs ?
Question 2.
Stéphane
Bancel, donc président, directeur général de Moderna, qu'on avait eu ici il y a quelques semaines ça, une personne que j'adore, qui est pour moi un génie et qui fait beaucoup de choses pour la santé. Tu parlais de tes parents tout à l'heure, il fait beaucoup de choses, en particulier pour l'oncologie. Il a travaillé évidemment sur ces sujets de Covid, mais il travaille essentiellement aujourd'hui sur l'oncologie avec beaucoup de choses très positives dans le futur. Donc écoutez, si vous voulez connaître ou apprendre des choses sur l'oncologie, sur tout ce qui est cancer, je vous conseille cet épisode avec Stéphane Bancel, qui, et ça c'est incroyable, était à Marseille. On reconnaît son petit accent. Toi, on l'entend de moins en moins, et toi, mais Stéphane, on l'entend encore un peu. Il était à Marseille, dans le même bahut.
Oui, même dans la même classe. On a fait pas mal de classes ensemble dans le secondaire. Lui, et comme il le disait très bien, d'autres entrepreneurs. Donc c'était effectivement... c'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, peu de gens étaient entrepreneurs. Vraiment, il y avait des gens qui reprenaient la boîte de leurs parents. C'était le cas d'aucun d'entre nous, puisque aucun de nos parents avait des entreprises qu'on pouvait même espérer reprendre. Ça a été le cas de quelques-uns, mais pas cette bande-là. Et on a tous créé des entreprises. Pour certains, ça a pris un peu plus de temps, pour d'autres, ils l'ont fait tout de suite, ou assez vite. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est assez évidente, c'est qu'il y a quelque chose de, quand même, une fibre commune dans la manière d'adresser les sujets qu'on voit dans la société et cette envie d'aller chercher des solutions à des problèmes. Et ça, clairement, oui, c'est quelque chose qui vient de cette éducation-là, de cette éducation... et d'aller...
Oui, alors quand on dit éducation, il faut comprendre. Hein. Là, tu es chez les jésuites, donc ouais. Stéphane nous en avait parlé. Donc l'éducation, c'est que là, tu rentres dans un monde très nouveau pour toi, parce que tu rentres en 6e, dans un monde où toi, tu viens du public.
Absolument.
La question là, est-ce que tu penses que cette éducation jésuite a participé à cette volonté d'entreprendre, ou pas du tout, c'est juste étonnant, bizarre, que plusieurs d'entre vous, ont extrêmement bien réussi, venant de Marseille, ce qui est, encore une fois, on n'est pas dans le...
Non, c'est clair.
On n'est pas dans de Paris.
Non. Je crois que ça a contribué, mais je crois aussi que cette éducation jésuite, elle ne vient, comme toutes les éducations, que renforcer quelque chose qui est déjà là. C'est la fameuse théorie de Nietzsche qui est que tu ne peux jamais être que la meilleure version de toi-même. Tu vois, tu ne peux pas être autre chose que toi. Et donc, si tu n'as pas ça en toi, tu peux faire toute l'éducation de tout ce que tu veux, à la fin, tu l'auras pas, quoi.
Alors, c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que tu dises ça, parce que tu ne deviens pas entrepreneur du tout à la sortie de ton lycée ou ton école, puisque ça, tu vas attendre des années et des années de salariat. Hein. Mm-hmm. Stéphane, c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez attendu, vous n'êtes pas lancé. Peut-être que ce serait différent aujourd'hui, quelques années plus tard. Mais en tout cas, à l'époque, tu rentres, donc là, tu as le bac en poche, tu pars à Paris, ça y est, tu, hop, je te vois, tu prends le train, tu vas à Paris. Là, tu vas passer tes études à l'IEG. Et là, tu te dis, il y a deux sujets pour toi. Tu dis la finance ou le marketing, hein, c'était un peu ce que tu disais comme possibilité.
L'école de commerce.
L'école de commerce, ouais, classique. Hein.
L'école de commerce, finance, marketing à l'époque. Grand corporate, en tout cas.
Et là, en fait... Ça se passe pas comme ça. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Parce que les stages n'étaient pas rémunérés? Parce que c'est pas ça qui t'intéresse? Parce que tu trouves autre chose que tu trouves plus passionnant?
Non, ça m'intéresse, ça me passionne. J'adore le sujet, mais j'avais eu la chance de pouvoir, grâce à mes parents, faire ce cycle multinational qu'on appelait à l'ISG, qui faisait un tour du monde pendant la seconde année. Et donc, 5 mois aux États-Unis, à New York, 5 mois en Asie. À une période qui était très particulière dans notre histoire contemporaine, qui est les quelques années qui ont suivi la chute du mur de Berlin, le démantèlement de l'URSS, l'ouverture aussi de la Chine, et donc la fin de Hong Kong anglais. Et donc, j'ai vu tout ça à un âge qui était, tu vois, j'avais 20 ans, et donc... Soudainement, c'était la mondialisation heureuse. Alors, si on regarde l'actualité aujourd'hui, on sent bien que ça s'est un peu renversé comme sujet, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et il était possible, pour la première fois depuis des décennies, au moins la Première Guerre mondiale, pour des jeunes Français d'aller parcourir le monde de manière relativement simple, alors onéreuse, mais simple, et sans danger. Et ça, c'est exceptionnel, parce que, évidemment, ça confronte à l'altérité, à la culture, et ça t'oblige à l'autonomie. Parce que tu te retrouves dans des environnements qui sont pas hostiles d'un point de vue sécuritaire, mais hostiles d'un point de vue culturel.
Nouveau,
clairement, c'est
nouveau,
complète. Tu vois, t'arrives à l'époque, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'Airbnb, il n'y a rien. Tu arrives à New York, il faut que tu trouves un appartement. Bon, bah, il faut acheter le journal, des petites annonces, et se mettre dans une cabine téléphonique et appeler des gens. Quoi. Bonjour, je ne parle pas anglais, je veux bien louer votre appartement. Ouais. Voilà.
Ouais, tu dois te débrouiller. Quoi. C'est la débrouille, en fait. C'est
et ça tout comme ça, une fois que tu as l'appartement, il faut que tu fasses installer la ligne téléphonique, tu vois, parce qu'il n'y a pas de choix, et ainsi de suite. Et donc, tout est à la fois bien, quand même, un peu encadré par la partie scolaire. Et donc, la troisième année, c'est un stage. Toute l'année, avec des cours le week-end. Et moi, je... Évidemment, postule à toutes les boîtes du luxe et de la mode qui ont un peu un nom, et j'envoie des lettres de motivation et des CV manuscrits, évidemment, à l'époque. Quoi. Les lettres de motivation, les CV, je ne les quand même pas. Mais, et là, j'ai quelques entretiens qui se passent bien et on me propose des stages non rémunérés. Et là, finalement, la loi s'est transformée pour que ça devienne interdit plus tard, et la preuve que ça n'avait pas beaucoup de sens, mais à l'époque, c'était toutes ces maisons-là considéraient que c'était...
La chance que tu avais, la chance de l'étudiant
chance
de faire...
incroyable de pouvoir... Et moi, je m'étais dit, si on ne me rémunère pas, c'est quand même faire des tâches qui n'ont aucune valeur, et faire des cafés dans une grande maison de luxe, ou faire des cafés n'importe où, ça ne m'intéresse pas, et donc il faut que je trouve un autre stage. Et là, par tout un tas de, comme toujours, de réseaux, de connexions, je finis par me retrouver dans une entreprise informatique, mais une entreprise de 5 personnes qui venait de se monter. Donc, j'étais pas entrepreneur, mais j'étais clairement dans la start-up, à l'époque, on n'appelait pas une start-up.
Donc, ça s'appelle Nirtec, c'est un éditeur spécialisé dans le stockage de données, c'est ça? Donc là...
Mais qui commence, hein?
On est bien loin, on est bien loin du luxe, là. Hein.
Ah oui, je te confirme.
Là, on est bien loin. Mais pour toi, c'était important d'être payé, c'était important.
C'était indispensable.
C'était indispensable.
En fait. Ah oui.
C'était indispensable parce que tu en avais besoin.
Non, c'était.
Ou parce que tu considérais que c'était quasiment insultant de demander du travail sans être rémunéré.
C'était tout à fait la deuxième partie, puisque, comme tu l'as compris, j'avais la chance d'avoir une famille qui venait de financer une année à l'étranger à grands frais. Et donc. Ils auraient pu financer un peu plus et ils l'auraient fait, même si ça leur avait demandé des sacrifices, ce qu'ils ont toujours fait.
Alors, Nirtec grandit, ça se passe plutôt bien, ils te gardent, ça aussi c'est un point important, un stagiaire qui reste. Ouais. Là tu restes une année, 2 années, 3 années, ils t'envoient aux États-Unis, donc à ce moment-là tu savais un peu mieux parler anglais, donc c'était plus simple pour pouvoir trouver ton appartement et mettre ta ligne téléphonique. Et donc là c'est quoi, 7 ans? 7 ans chez eux, ça se termine mal. C'est quoi
l'explosion de la bulle internet.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on est en 2001, ils avaient levé de l'argent. Tu avais vu de près ce qui se passait ou vous n'avez pas levé d'argent? Comment ça se passait?
Beaucoup d'argent levé. Finalement, il a été décidé lors d'un conseil d'administration de se séparer du dirigeant fondateur et la recherche et le CEO qui a été trouvé pour le remplacer a expliqué aux administrateurs qu'il fallait vraiment des Américains, quoi. Et donc, ils ont décidé de licencier toute l'entreprise. 100% de l'effectif. 100% de l'effectif. Dont moi, évidemment, puisque je faisais partie de cet effectif-là. Alors, ça a été fait d'une manière qui était plus ou moins bien, mais on s'en foutait il y a longtemps.
T'étais encore à New York à ce moment-là.
Hein. J'étais encore à New York, mais grosso modo, on m'explique qu'à la fin du mois d'août, je n'aurais plus d'appartement à New York et que donc il fallait que je rentre à Paris puisqu'on n'avait plus besoin de moi aux États-Unis, assez logiquement, parce qu'il n'y avait plus besoin de personne. Et donc je rentre à Paris, mais c'est en 2001. Et j'étais déprimé.
Mais attends, vraiment, c'était horrible. Là, tu as fait 7 ans comme dans cette entreprise, tu es jeune, tu n'es pas fondateur.
Que de la montée.
Tu montes petit à petit.
Même l'entreprise, que de la montée.
Tu te projetais que 10 ans, 5 ans, 20 ans ou...
Ah ouais.
Ouais. Tu aurais pu faire ta carrière dans cette entreprise.
J'en sais rien.
Mais c'était chez toi.
Ouais, en tout cas, j'avais pas mal à la tête. Ça fait pas partie de mon socle de croyance, mais je pense que les choses deviennent à un moment où tu es prêt pour les faire.
Tu rentres, t'es déprimé.
Ouais.
T'es encore plus déprimé parce que le mois d'après où tu es rentré, on est en septembre.
C'est ça, 11 jours après. Je suis moins déprimé du coup.
T'es moins déprimé. T'es déprimé parce que l'impact que ça a sur le monde.
Je suis effondré par ce qui se passe.
Mais pour toi, tu dis juste, c'est peut-être une bonne chose de ne pas être là-bas, quoi.
Moi, je crois beaucoup dans le timing. Je crois que c'est vraiment... la vie, c'est beaucoup ça.
Vos bureaux étaient où, à New York ?
Le bureau était dans ce qui est le building de Chelsea Market, qui venait d'ouvrir, qui était cette ancienne usine de cookies Oreo. Et qui est toujours un bâtiment assez sympathique.
Qui est très beau.
Mais dans le sud de Manhattan.
Pas loin, à quelques encablures de...
Et j'habitais très près du bureau, ce qui n'était pas désagréable non plus. Mais effectivement, la vie qui était exceptionnelle, l'énergie qui était exceptionnelle à New York, à la fois quand j'étais étudiant et quand j'y suis retourné pour le travail, soudainement, ça s'est complètement éteint.
Et le monde parisien de l'époque, en tout cas dans le monde de la tech, est très différent du monde d'aujourd'hui. On est encore une fois, dans ces années-là, début des années 2000, on est bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, où il y a une effervescence complète, où il y a beaucoup d'internationaux qui sont en France, il y a beaucoup de financement, beaucoup de start-up, le monde a changé. Il y a 20 ans, donc tu reviens ici, là, il ne se passe pas grand-chose.
Non, mais le fondateur de Niretech dit, moi je vais remonter une boîte, puisque bon, ouais. C'était pas la première, et ça sera... Et il me dit, est-ce que tu veux revenir avec moi? Et moi, je dis, oui, pourquoi pas. Et donc, on est reparti pour 8 ans.
Donc là, cette entreprise s'appelle Avitis. Mmh. Et cette fois-ci, écoutez-moi bien, auditrice, auditeur, c'était un logiciel d'optimisation des postes de travail. Donc là aussi, tu faisais du B2B. Donc là, ça dure quelques années, de nouveau.
Ouais.
Là, à nouveau, tu n'es pas fondateur ou cofondateur, mais tu vois l'entreprise grandir. Là aussi, Vous trouvez des financements, vous grandissez ou là c'est avec moins de financements?
Moins de financements, parce qu'évidemment la période
compliquée
était moins financement. Complexe. Entre post-explosion de la bulle et crise financière de 2007-2008, ce n'était pas les meilleures années de financement. Honnêtement, il y a eu des bonnes années, mais ce n'est pas celle-là. Quoi.
On en parlait tout à l'heure, quand tu sors d'école, tu ne deviens pas entrepreneur, tu passes 15 ans à travailler en tant que salarié. Là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu dis, pourquoi pas moi? J'ai les outils maintenant. Tu te poses une question, tu as une rencontre avec quelqu'un. Comment ça se passe que tu décides à un moment de quitter Avitis et de lancer, écoutez-moi bien, ce qui est l'ancêtre de Lydia, Drinks on Me.
C'est ma tournée.
C'était en marketing, mais tu avais raison, il fallait que tu fasses du marketing dans ta vie. Hein. Mais raconte-moi ça. Qu'est-ce qui se passe là?
En fait, ça, c'est pas. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui ont eu un peu de réussite, sont prompts à raconter qu'un matin, ils se réveillent et ils sont frappés par la grâce, la lumière descend sur eux. Et moi, franchement, si un jour la lumière était descendue sur moi, la grâce divine, je serais dans le business de la religion. Quoi. Je ne ferais pas dans la tech. Pourquoi? C'est tellement plus valorisant. Et donc, ça s'est jamais descendu sur moi. Donc, c'est toujours des processus assez lents qui se déroulent sur en l'occurrence, un an et demi ou deux ans, et où je me rends bien compte que j'ai fait un peu le tour du sujet, et intellectuellement, je suis moins stimulé, moins excité, et je vois bien aussi que la lenteur des cycles B2B, surtout dans les grands appels d'offres qui durent des 18 mois, commence à me peser, et que à ce moment-là, est en train de se passer une révolution qui est incroyable, qui est l'arrivée de l'iPhone, et surtout, un an et demi après, l'arrivée de l'App Store. Parce que peu de gens se souviennent qu'au début de la première génération d'iPhone, il n'y avait pas de store d'app. Il y avait quelques applications qui étaient pré-chargées, natives. Et donc, soudainement, une nouvelle interface dont il est assez clair qu'elle va devenir l'interface de notre quotidien, ouvre des portes en grand qui dit « Ok, on va tout réinventer pour cette plateforme-là. » Et là, c'est un appel d'air gigantesque. C'est pas que moi qui suis happé par cet appel d'air, tu vois. Et là, je me dis « Ok, maintenant, tu veux faire un truc qui est dynamique, qui va vite. Le B2C est une évidence. Et là, l'opportunité de B2C a jamais été aussi grande qu'avec cette plateforme-là, et donc il faut faire une app. »
Je suis d'accord, mais tu ne m'as pas répondu à la question de toi, entrepreneur, ça fait 15 ans que tu fais du salariat. Pourquoi ce moment-là
c'est du salariat, mais c'est du salariat dans une petite boîte et très proche du fondateur et compagnie. Et donc, tu sais bien que c'est en toi. Quoi.
Tu sens, tu le savais. Tu sens
oui, moi j'ai eu la chance, jeune et souvent, d'être beaucoup sollicité par des cabinets de chasseurs de tête pour aller dans des grosses boîtes, notamment américaines, d'infrastructures informatiques. Et étonnamment, je ne suis jamais allé passer un seul entretien. Et donc, ça dit quand même que tu ne te diriges pas vers une carrière corporelle.
Je sais quoi, tu peux aussi avoir beaucoup d'estime pour la personne qui...
Et c'est le cas.
Comment s'appelait ce dirigeant de ces deux entreprises ?
Daniel Franqui.
Donc merci Daniel.
Et c'est le cas, absolument. Beaucoup d'estime, une grande proximité, mais au bout d'un moment, tu as besoin aussi de toi.
Il a bien pris le fait que quand tu es parti ? Ou il était peiné, déçu ou...
Je crois qu'il l'a bien compris, mais je doute que ça lui ait fait plaisir.
Heureusement que ça n'a pas été mis là.
Et au-delà de l'avoir fait plaisir, je pense que ça l'a un peu blessé, ouais. Puisque, étonnamment, on ne s'est pas revu depuis.
Tu déconnes.
Non.
Et, mais parce qu'il n'a pas voulu te revoir ou parce que tu t'es dit...
La réalité, c'est que je crois que... Tu vois, moi, j'ai assez de coups de fil pour essayer pour déjeuner ensemble au poste.
Ouais, bien sûr.
Puis bon, c'est pas revenu,
très personnel, en fait.
Ouais, et puis je crois qu'il y avait une espèce peut-être de filiation un peu, ben oui. Et tu vois...
T'as tué le papa.
Ouais, un peu de ça.
Mince. Daniel, merci Daniel.
Ça n'enlève rien, là.
Bien sûr, et puis 15 ans à côté de lui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que t'as apprises,
évidemment.
À faire, parfois pas forcément
évidemment.
Toujours à faire.
À faire et à ne pas faire, les deux, bien sûr. Tu apprends tous les jours des erreurs comme des réussites.
Donc... le marketeur que tu es se déchaîne et donc trouve ce magnifique nom de Drinks on Me, donc le point ME hein, que tu avais sur le qui quel pays le
Macédoine.
Point Macédoine. Donc c'était Drinks on Me point ME. Tu avais fait une liste d'entreprises potentielles que tu allais pouvoir développer à travers cette plateforme qui se lançait, qui était l'App Store, ou pour toi c'était forcément un système de paiement plus facile pour les bars. T'avais plusieurs choix.
Ah non, ça aurait vraiment pu être n'importe quoi.
Ah d'accord.
Ça aurait vraiment pu être n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, c'est un process qui prend du temps. Et puis, à un moment, comme tu es dans une recherche vraiment active, tu t'intéresses à ce qui se passe un peu partout, tu regardes ce qui se passe un peu partout, tu lis, tu essayes de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde du mobile, des applications mobiles, ailleurs qu'en France, parce que en France, c'est entendu, il se passe rien. On vient de commencer, donc ça le truc a 5 minutes. Et là, je me rends compte que au Kenya, les gens qui n'ont évidemment pas d'iPhone et pas de compte bancaire non plus, payent de manière massive avec leur feature phone, avec leur téléphone 3310, et une technologie très basique basée sur le SMS, avec une solution qui s'appelle M-Pesa, qui veut à la fois dire l'argent,
En Swahili, donc c'est M-Pesa, donc M-Pesa. C'est la solution qui est en Afrique de l'Est à ce moment-là.
Au Kenya seulement. C'est la solution de Safaricom, l'opérateur dominant mobile du Kenya, qui appartient à Vodafone, et qui transforme la société, mais littéralement d'une manière totale, y compris sur des problèmes endémiques que la loi n'avait jamais réussi, comme la corruption, comme l'insécurité dans la rue. Parce que
donc toi, tu vois ça.
Et je me dis, waouh, nous, ça fait 10 ans qu'on nous explique que demain, on va pouvoir payer avec notre téléphone, parce que ça, la réalité, c'est que des rapports de Gartner qui disaient...
Ça arrive.
Et des tests avec Nokia sur des vending machines Coca-Cola, ça fait 10 ans que ça existe. Tous les ans, il y allait en avoir l'année prochaine. Mais bon, ça faisait 10 ans que c'était l'année prochaine aussi. Et là, je me dis, waouh, ce truc est fou. Mais moi, je connais rien à tout ça. Donc, je connais rien aux applications. Je connais rien aux... Je suis pas tech. Ouais. Je connais rien au paiement. Mais je me dis... S'il y a moyen de faire quelque chose là-dedans, c'est dingue. Et un de ces fameux amis de cette fameuse école marseillaise, qui est aujourd'hui notre président du conseil d'administration de Lydia, est entrepreneur.
Qui a monté un magnifique société de gestion qui s'appelle Sycomore.
Voilà. Me dit, j'étais à San Diego et j'ai vu une application d'un mec qui a fait ça, c'est un étudiant de University of San Diego, pour payer dans les bars autour avec des discounts et tout, machin. J'ai dit, bah, vas-y, envoie-moi, montre-moi. Le truc s'appelait Boozebucks. Donc, tu vois, Drinks on Me, c'était drôle, mais le mec avait quand même fait une application qui s'appelait De l'argent pour picoler. Donc, c'était encore un cran plus loin. Et je regarde ça, et à ce moment-là, j'étais en train de voir comment ne pas avoir besoin de faire toute la lourdeur administrative d'un agrément
bancaire,
en tout cas de paiement, avant de commencer, parce que tu sais même pas si ça va marcher, tu vois, il y a personne qui a réussi à faire du paiement avec son téléphone, et donc l'ambition est vraiment de faire du paiement avec le téléphone, mais il faut commencer quelque part, et il faut commencer par un endroit où on peut le faire sans avoir toute la lourdeur. Et donc je commence par regarder quelles sont les exemptions. Qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir ce fameux sésame? Et je me rends compte qu'il existe deux exemptions possibles. La première, c'est faire des paiements dans un environnement, un réseau d'acceptation qui est privé. C'est ce qu'avait fait avec Jenny les Trigano au Club Med avec les boules en plastique. C'est un argent privé, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux Coca-Cola, oui, deux jaunes, une blanche, ok, si tu veux. Et donc là, il n'y a aucun problème. Tu n'as besoin d'aucune acceptation parce que c'est chez toi. Mais nous, enfin, ouais. Moi, des réseaux d'acceptation, j'en avais zéro, tu vois. Donc, je ne suis pas McDonald's, je ne suis pas le Club Med, donc j'ai rien. Et donc, cette option-là n'existe pas. Il existe une autre option qui est la vente d'un seul produit dans un réseau d'acceptation ouvert. Et là, d'un coup, ça connecte avec cette histoire de bar. Pourquoi ? Parce qu'un réseau d'acceptation ouvert, les bars, c'est pas mal. C'est un seul produit. Et là, on fait ce fameux un coupon de 20 euros de boisson qui est un seul produit qui s'appelle un drink on.
Donc c'était un coupon de 20 euros.
C'est ça. Et donc un seul produit dans un réseau ouvert qui permet de tester et la partie technologique et la partie appétence et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, les problèmes de réseau, de connexion, tu vois, parce qu'on est en 2011.
Quel est le premier bar que tu vas voir? Tu te souviens?
On va voir des bars, tu vois, à l'époque, on sous-louait un bureau au 13 boulevard Rochechouart dans une société qui s'appelle Limonétique, enfin, qui a disparu maintenant, qui a été rachetée par Tunes, mais, et voilà, où se trouvait aussi My Little Paris, d'où venait Antoine,
notre cofondateur. Antoine Porte, donc ton cofondateur.
Ouais, exactement. Et donc, on va voir des bars qui sont... Bah,
mais tu te souviens, le premier qui vous dit oui, ça on s'en souvient,
le premier qui nous dit oui, je crois que c'est La Grosse Caisse, rue Montmartre.
Et donc, toi, il te le dit à toi, Antoine, à tous les deux?
Non, Antoine, il faisait la partie tech et moi, je faisais le tour des bars.
C'est toi qui buvais.
Au début, on buvait pas, on essayait de convaincre les bars.
Ouais, mais il faut se mettre des moyens.
On faisait des marathons pour regarder les gens utiliser.
Donc, tu signes ça, ton premier, quand tu rentres de ça, tu dois être... T'es heureux ou tu dis juste c'est un passage obligé?
T'es heureux, mais tu sais que c'est un lab. Non, mais tu sais que c'est un lab surtout. C'est juste pour faire le truc et pour voir s'il y a des gens qui veulent le faire. Parce que si personne veut le faire, personne veut le faire. Tu peux être content de toi, mais t'y a rien.
Donc t'avances, t'en signes un, deux, trois.
Ouais.
Une vingtaine, ça reste petit.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe au moment où tu dis, attends, je vais pas faire ça, que ça se passe de Lydia. Qu'est-ce que c'est quoi cet élément clé qui va vous passer de Drinks on Me à Lydia? C'est la rencontre avec avec Antoine. C'est
qu'est-ce que c'est? Antoine
était déjà
Drinks on Me.
Antoine
était
Drinks on Me.
Ouais. Et en fait, Lydia, c'était, enfin, c'est Drinks on Me. Enfin, Drinks on Me est le lab de Lydia. Drinks on Me, ça nous prend quelques mois à faire, ouais, juste pour tester. Après, on fait des marathons avec des gens comme. Enfin, tout un tas aujourd'hui des gens qui sont devenus des entrepreneurs, le début de l'écosystème, ouais, entrepreneur tech parisien. Et on voit comment ça se passe. Et le lendemain, on rentre au bureau et on change tout. Et à chaque fois que tu ouvres cette application, elle n'a plus rien à voir avec la veille. Enfin,
donc le grand chamboulement.
Ça dure quelques mois, ça. Et puis on laisse tourner. Et tout de suite, on commence à travailler sur Lydia. Donc on commence à travailler sur le setup réglementaire, trouver des partenaires qui veulent bien nous apporter leur licence, trouver des partenaires techniques pour faire. Et faire du paiement pour tout.
À quel moment l'idée de Lydia est arrivée? C'est quand tu...
Au
début. Donc c'est Lydia l'idée et Drinks on Me un produit?
Exactement.
Ou l'inverse?
Non, Lydia l'idée et Drinks on Me un test pour pouvoir bénéficier d'une exemption.
Donc Lydia a été créée avant Drinks on Me?
C'est la même entreprise. On n'a pas changé d'entreprise. On a créé une entreprise pour faire du paiement mobile. D'accord. Au début, on l'a appelée Drinks on Me. Et puis, après, on l'a renommée Lydia.
Vous avez changé Lydia, d'accord.
Mais
okay,
l'intention était de faire du paiement mobile dans les commerces.
D'accord, pas que dans les bars. Au départ, c'est pas que les bars?
Au départ, on l'a fait que dans les bars pour cette raison précise.
De lab, tu dis. Mais tu penses, au début, tu pensais pas faire, bon, on va faire 500 bars, 1000 bars, 2000 bars, c'est ça qu'on ferait?
Non, mais tu vois, si tu vas faire les bars, tu vas faire les restaurants, si tu vas faire les restaurants, il n'y a aucune raison de s'arrêter au bar. Ça serait vraiment
un peu bizarre. Booze back, c'est pour demander ceux qui sont devenus.
Non, mais lui, il a rien fait. C'était un étudiant pour picoler moins cher dans le bar où il allait avec ses potes.
C'est un choix.
Oui, c'est un outil.
Le moment où tu vois un vrai effet de levier, c'est cette association étudiante qui voit son intérêt. Est-ce que tu as vu un moment où il y a eu un passage à un autre niveau où ça a été régulier? Ou est-ce qu'il y a un moment quand même où il s'est passé quelque chose?
Ah non, il s'est passé plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a quand même travaillé pendant 2 ans, donc entre septembre 2011 et l'été 2013, début d'été 2013, à fabriquer Lydia. Il y a eu quelques mois sur Drinks on Me, mais la plupart du temps, c'était Lydia, quand même. Avec la sincère intention de faire un outil pour commencer, pour tous les pros qui n'acceptaient pas la carte, il y en avait beaucoup, donc les taxis, les médecins, tous les indépendants, les électriciens, plombiers, kinésithérapeutes, j'en passe, c'est des meilleurs, qui n'acceptaient pas la carte à l'époque. Et le taxi, c'était vraiment le cas le plus pénible pour tout le monde. Et donc là, on s'est dit, tout le monde a un smartphone, ou va l'avoir. Et donc, faisons une application qui est hyper simple, où tu scannes un QR code. Donc, on avait bien rodé notre coup de QR code avec Drinks on Me. On voyait que les bars, c'est un environnement qui est vraiment très compliqué techniquement. Les gens ne sont pas toujours en forme.
Il y a pas le réseau.
Le réseau, la lumière, ouais, l'eau. Enfin, tu vois, tout ce qui peut se passer, quoi. Enfin, la liquide. Et donc, on était bien rodé techniquement. Et donc, on se dit, maintenant, on va commencer avec les taxis. Et ça, c'est... On est sur notre coup, quoi. Les taxis, ça va aller bien. Et donc, on sort en juillet 2013 et on commence à aller voir les taxis, mais dans la rue, quoi.
Comme ça?
Bonjour, monsieur le taxi. On va à la station de taxi, on commence par le dernier, pas le premier qui attend le client, tu vois. On commence à venir, on tape à la fenêtre. On peut vous parler de... Le mec regarde, c'est quoi ton problème,
mais
quoi?
Mais qui es-tu, monsieur?
Oui, pourquoi? Tu vois, ma journée n'est pas assez mauvaise, il faut qu'en plus tu viennes me raconter tes salades. Et donc, on se fait, grosso modo, jeter à peu près tous les taxis à qui on parle. Quelques-uns disent oui, parce que ça les amuse, 2 ou 3, hein. Quand je dis quelques-uns, c'est vraiment peu. Et puis on se dit, ok, là, à la station, ils sont vraiment pas au bon endroit, donc on va aller à un endroit où ils ont plus de temps, et donc on s'infiltre à la base arrière, à Roissy.
À Roissy, oui.
Et là, on se fait chasser, quoi. On se fait chasser comme des malpropres. Et donc on dit, bon, les taxis, c'est vraiment pas des gens bien, ils veulent pas payer les taxes, ils veulent faire du black. C'est vraiment, il faut qu'on arrête avec ces gens. Nous, on connaît des gens bien, des gens vraiment carrés, qui vraiment, ils sont avec le fisc, qui sont réglo, c'est les médecins. Et les médecins, on les connaît d'autant mieux que mes deux parents sont médecins, comme on en a parlé. Mais les deux parents d'Antoine sont aussi médecins. Et donc là, on est
chez vous.
On sait, quoi.
Allez, vous êtes
les
chez
médecins,
vous.
On est. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone. En l'occurrence, en notre temps, on avait recruté un commercial, Pierre Boisa, qu'on embrasse évidemment aussi. Et on appelle des centaines de médecins. Et lui et moi, allô, 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 allô. Évidemment, tu tombes sur aucun médecin. assez logiquement, ils font autre chose que répondre à des gens qui appellent...
Pour leur prendre quelque chose.
Et quand tu tombes sur quelqu'un, il te dit, mais en fait, c'est quoi votre idée, quoi? Je voulais qu'à la fin de l'ordonnance, j'écris, vous me téléchargerez l'application Lydia. Et on dit, ouais, les médecins, ils sont vraiment trop vieux jeu. Tu vois, le mec, ça fait 2 ans qu'il est sur son truc, il veut pas se dire qu'en fait, c'était juste n'importe quoi, ouais. Qu'il s'est fait un film. Et surtout que ça fait 2 ans que tu te payes pas, que tu fais galérer tout le monde. C'est et bien. Pire que tout, en juin 2013, juste avant de lancer, on lève quand même de l'argent, enfin, un petit peu en décembre 2012, mais surtout en juin 2013, on lève un peu d'argent, love money, auprès de gens proches.
Les business angels, hein.
600 000. Non, les gens proches. Pas la famille, mais dans proches, amis et okay. Amis d'amis, tu vois. Et là, tu te dis, attends, je suis en train de foutre en l'air l'argent des amis, là, ça va pas marcher. Donc, il va falloir qu'on arrête, quoi. On essaye quand même les kinés, les chiros, les électriciens, les plombiers.
Non,
franchement.
Non.
De Caribe en Silla. Mais vraiment une horreur. Et là, t'es obligé de, quand même, à un moment, tu t'assois et tu dis, on s'est trompé de film, quoi. Ouais. T'es pas fier, t'es pas satisfait, t'es pas content, mais c'est la vie. T'es trompé. Et en désespoir de cause, parce qu'on était un peu fous quand même, j'ai oublié de dire, qu'on s'était dit que ça serait bien, en plus de l'application pour payer les taxis, de développer une fonctionnalité sur le côté qui permettrait de partager le taxi. Et donc, des échanges entre particuliers. Mais tu vois, on n'avait déjà pas de clients, pas de business, personne qui voulait de notre truc, et on s'était dit qu'il faudrait vraiment une fonctionnalité complémentaire, parce que ça serait, ouais, c'est tellement logique, quoi.
Ça aura tellement de succès qu'il va falloir faire ça.
C'était fou. Les gens allaient se battre pour l'avoir. Et donc, en désespoir de cause, on se dit, les pros, c'est une erreur de casting. Et allons voir si...
Les particuliers.
Les particuliers, notamment les jeunes qui ont ces smartphones-là, et ça ne les amuserait pas. Et donc, on va à Epitech avec Pierre et Fred, qui est toujours chez nous, notre premier développeur mobile, et à l'Epitech. Pour leur demander, avec un petit groupe d'étudiants, si cette histoire de P2P, d'échange entre particuliers, de partage de trucs, parce qu'ils sont colocataires, machin, ils partagent le taxi en rentrant de soirée et tout, ça peut pas les intéresser. Et là, ils sont enthousiastes, et il y en a un qui dit, oui, mais moi, je suis le trésorier du BDE. Et tu vois, il y a 3 semaines, on a fait une soirée en sortant de boîte de nuit, on se fait piquer la recette. Est-ce qu'on pourrait pas vendre les places de soirée avec votre truc? Et là, c'est Eureka.
Comment il s'appelle? Et tu dois t'en souvenir.
Je ne me souviens pas.
Et là, c'est
Eureka.
Merci à lui.
Là, tu comprends qu'en fait, le professionnel qu'on cherchait depuis des mois, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces gens qui nous avaient dit non avant, c'est pas parce qu'ils étaient malhonnêtes avec le fisc, vieux jeu et tout. C'est juste nous, on était des imbéciles, on n'a pas compris qu'il n'y a pas un pro qui est intéressé par un système d'encaissement qui n'a pas de payeur. En fait, ça ne sert à rien. C'est un système d'encaissement génial, mais il n'y a pas de payeur. Bon, pourquoi tu veux t'exciter, quoi? Mais là, on avait le truc parfait, parce qu'en fait, l'œuf et la poule, c'est la même personne. Le mec qui encaisse, c'est un étudiant, et pas n'importe quel étudiant, le plus populaire du campus. Pourquoi? C'est lui qui fait les soirées. Et donc, là, on lui dit, bon, on va faire un truc pour toi, on va te développer tout ce que tu veux, et ça va être fou, et en plus de ça, tu peux faire de la billetterie en ligne, crois-moi, on va te régaler, et on va te donner des bières et des pizzas dans des quantités que tu n'as jamais vues de ta vie. En échange de quoi, la prochaine soirée, il n'y a que Lydia pour payer.
Il n'y a pas d'autre choix.
Ouais. Et donc, en 2 soirées, on avait nettoyé le campus, quoi. C'est pas...
Tout le monde avait téléchargé l'application.
Ouais, pas parce qu'ils voulaient payer avec leur téléphone. Hein.
Mais parce qu'ils voulaient aller à la soirée.
Ouais.
Et de là, donc là...
Un autre campus.
Et donc, Pierre, là, il appelle tous les campus un par un.
Ouais, on va les voir.
Et c'est là où Lydia devient l'application reine des campus.
Et oui, et très vite... Il s'approprie, comme finalement c'est vraiment le paiement sur les campus, oui, dans les associations et tout, mais aussi des échanges entre particuliers. Il s'approprie tellement l'usage, et c'est tellement un nouvel usage, personne ne dit je te fais un virement avec Lydia. Non, très vite, alors qu'on a 40 000, 50 000 utilisateurs, quelqu'un dit, ou ça se répand, je te fais un Lydia. Et là, c'est la bascule.
Et ça, c'est la bascule. C'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le B2C,
mon Dieu,
que
tellement.
Tu utilises le nom de ton entreprise pour... Est-ce que tu l'as googlé?
Ça n'arrive qu'à des immenses entreprises qui ont déjà une grande notoriété, folle. Nous, on n'avait rien, était 12.
Ce qu'on comprend ici, c'est que Cyril et Antoine n'étaient pas tellement préparés, en tout cas, avaient fait une étude de marché, en fait, en live, en fait, tu l'avais fait dans le dur.
Pas d'étude du tout.
Et ce qu'on dit souvent, c'est que quand vous vous lancez, essayer un petit peu d'avoir une démarche, parce que là, si ce jeune de l'épithèque BDE qui n'était pas là à ce moment-là, peut-être que tu serais... Voilà, si,
heureusement, on aurait fermé.
Vous aurez fermé. Et bien c'est sûr. Là où tu te dis juste parfois, quand même, le destin est quand même assez incroyable. Question sur l'entrepreneuriat. En connaissant tout ça, tu dis, j'aurais dû me lancer plus tôt ou pas vraiment?
En fait, je ne sais pas si je crois au destin, au sens de fatalité, au sens de tout est écrit, ça non. Ça ne fait pas partie de mon socle de croyance, mais je pense que les choses deviennent à un moment où tu es prêt pour les faire. Et donc, ça ne m'est pas venu avant, tu vois.
On va faire une pause vérité, Cyril. Je vais te dire quelques affirmations et clichés que j'ai pu entendre sur l'entrepreneuriat et le monde de la tech. Et tu devras me dire si tu les trouves vraies ou fausses. Tu peux étayer ou pas. T'es prêt?
Go.
L'intelligence artificielle sera un danger à terme pour l'humanité.
Pas d'avis. Je ne lis pas dans le marc de café.
Pas d'avis. Alors, cela, je ne l'avais pas prévu, ce pas d'avis. Attention, parce que...
Non, mais la réalité, c'est que l'intelligence artificielle est un outil. L'intelligence artificielle est un danger pour personne, est une solution pour personne. Elle n'est que, comme tous les outils, que ce qu'on en fait. Est-ce qu'un couteau est un danger? Posé sur une table, c'est un danger pour personne.
Il y a trop d'applications pour tout et n'importe quoi aujourd'hui.
Vrai.
La tech sauvera le monde.
Vrai. Elle a déjà sauvé 1000 fois.
Les entrepreneurs tech pensent toutes et tous qu'ils vont changer le monde.
J'espère que c'est tous les entrepreneurs, pas que la tech.
Est-ce qu'un entrepreneur doit être un inventeur?
Non.
Est-ce qu'on parviendra à concurrencer les Chinois et les Américains dans la tech?
Je crois qu'on les concurrence tous les jours.
Tu penses?
Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, la vraie question n'est pas est-ce qu'on va les concurrencer, parce que la plupart du temps, on n'est pas souvent... opposition frontale, mais on est dans un environnement qui est un environnement finalement d'écosystème. Et donc, comment tout ce qui est développé, tout ce qui est inventé partout, peut être de la meilleure des manières agrégées, que ce soit un bout d'Américain, un bout de Chinois, un bout de Norvégien, un bout d'Africain, un bout de Français, en fait, on s'en fout, pour amener des solutions, pour améliorer le quotidien.
Ok. Après, c'est la taille de marché aussi. C'est ça qu'on va dire. C'est que tu serais né à New York aujourd'hui ou tu serais né en Chine, ton Lydia aurait une puissance.
Cette logique-là voudrait qu'on ne fasse pas de tech ailleurs qu'en Inde, en Chine et aux États-Unis. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Et je crois que le truc le plus fou que j'ai jamais entendu dans la bouche d'un VC, et fais-moi confiance, j'en ai entendu des bien fous, c'est...
Toi, tu devrais écrire un livre là-dessus.
Ah, je pense que là, on peut faire une série Netflix en 12 saisons. Et vraiment, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui nous a dit, on était avec Antoine en train de pitcher, il nous a dit, stop, je crois pas du tout à votre histoire, parce que j'étais en Chine il y a 3 semaines, et je pense que c'est les Chinois qui vont tout gagner. Et je te dis franchement, comme analyse de VC, je pense que c'est les Chinois qui vont tout gagner, ça nous a pas paru très profond, quoi.
La BPI est essentielle dans l'écosystème français.
Tellement vrai. Mais elle n'est pas chez nous.
Elle n'est pas chez vous?
Non.
Et une raison?
Je crois que les gens qui investissaient pour le compte de la BPI dans les tours où on allait les voir pensaient qu'on mentait sur nos chiffres.
Oh.
Nous, on finit par nous le dire a posteriori. Mais à part ça, on a des très bonnes relations avec la BPI. Hyper essentiel.
Essentialissime. Il y a trop d'entrepreneurs aujourd'hui?
Bien sûr.
Ah, bien sûr?
Bien sûr. Évidemment, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs. Et ce n'est pas tellement qu'il y a une jauge maximum d'entrepreneurs, c'est juste que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat comme une manière facile de faire de l'argent. Et peut-être je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que si tu veux faire de l'argent facile, il y a quand même 50 000 trucs plus faciles que l'entrepreneuriat à faire. Et surtout, c'est probablement un bon moyen de ne pas réussir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une finalité pour ensuite faire autre chose, mais si tu ne fais pas les choses avec vraiment passion, détermination et compagnie, et que tu le fais juste en pensant que ça va tomber facilement parce qu'il y a un distributeur au bout du couloir qui ne débite pas ta carte.
D'ailleurs, tu le dis, hein, tu dis, selon toi, l'échec et va être quasiment tout le temps là. Donc tu dis, pour des grands succès, c'est un succès sur combien? 35 000 échecs?
Ouais, probablement. C'est pas grave. Non, mais en vrai, l'échec...
fait partie du parcours.
C'est ça. C'est... Non, mais c'est le quotidien. C'est le quotidien. Encore... Il y a des gens qui sont frappés par la grâce. Mais ils ne font pas entrepreneurs.
Les GAFAM sont bien trop puissants aujourd'hui.
Bien sûr. Bien sûr. On voit bien qu'ils sont tous les jours condamnés pour des positions d'abus dominantes. Donc, c'est même légalement, c'est évident.
L'entrepreneuriat et l'investissement sont des mondes beaucoup trop masculins.
Absolument. Et finalement, je ne suis pas sûr que le plus gros problème soit le problème de sexe, même si je sais qu'il ne faut pas dire ça, que ça va m'attirer beaucoup d'inimitié. Je crois que malheureusement, la diversité est un gros problème et que celui de la diversité des sexes est le moins dramatique. J'avais cette conversation il y a quelque temps avec Clara Chapaz de la French Tech, que j'adore et avec qui j'étais encore ce matin. Et donc, je lui dis, mais Clara, on est dans un bureau magnifique, tout neuf, qu'on vient de refaire rue du Sentier. Et là, tu vois, je suis en train de te parler et je me rends compte que une personne en fauteuil roulant ne pourrait même pas accéder au bureau. Et là, on le fait pas exprès, mais notre discrimination, c'est 100%. Tu vois, 100%. Et je peux te dire que c'est pareil pour toutes les boîtes d'attaque qui sont dans les bureaux, dans le Sentier. Okay, tu ne peux pas y accéder. Et ça, tout le monde s'en fout. On n'en parle pas. On en parle ou pas? Alors que tu vois, oui, des femmes, on n'en a pas assez. Des gens à mobilité réduite, il y en a zéro. Depuis, on a changé de bureau et dans les critères, je veux que les nouveaux bureaux soient absolument accessibles entièrement jusqu'au... Okay. Bon, ok, on a, entre-temps, on a mis des critères environnementaux, bâtiments, HQE, tous ces trucs-là, mais ça, tu vois, je m'en étais jamais rendu compte. Ça m'a choqué, ça m'a blessé, je me suis rendu compte qu'on discriminait à 100% des gens qui auraient été absolument en capacité de faire très bien ces jobs-là. Ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'on espérait pouvoir être le début d'une très grande histoire. On utilise une métaphore pour ça, chez nous, on dit qu'on construit une cathédrale. Et que, comme Anthony Gaudi, peut-être son nom est resté dans l'histoire, mais clairement, il n'a pas vu la fin de la Sagrada Familia.
Tu as parlé plusieurs fois, preuve que tu comptes évidemment beaucoup sur lui et qu'il compte beaucoup sur toi, c'est Antoine Porte, ton cofondateur. Là aussi, pour les gens qui nous écoutent, comment ça se passe, la première rencontre? Tu sais que c'est lui quand tu le vois la première, tu te souviens où c'est? Tu te souviens,
oui, c'est où? Tellement drôle. Donc, je pars sur cette idée de drink on me, d'accord, de bar. Et donc, il n'y a pas de nom à l'époque. Et donc, je me dis, dans ma petite tête vraiment bizarre, il faut que tu trouves quelqu'un qui soit ton associé, qui soit à la fois tech, puisque tu n'es pas tech. Donc, ça, je développais. Et qui s'y connaisse en bar. Imagine le vice du mec. Et donc là.
Un geek qui aime l'alcool.
Ça, c'est pas incompatible. Mais qui s'y connaisse en bar, c'est pas pareil que qui aime l'alcool, tu vois. Et là. Je me dis, ça va pas être facile à trouver. Et puis au bout de 3 jours, je me dis, non, t'es vraiment fou, il faut découper les problèmes. Évidemment, il faut un associé tech. Et puis, les bars, tu trouveras bien une plateforme. Et donc, je regarde les plateformes, les sites internet de bars. Et je trouve un site qui s'appelle Les Amis de l'Apéro, qui est hyper bien fait, avec une vraie communauté dynamique et tout. Et donc, j'envoie un petit mail. Je dis, voilà, les gars, j'ai un projet, peut-être on pourrait faire un partenariat. Un partenariat, moi, j'ai rien, eux, ils ont un truc, mais bon. Allons boire l'apéro. Et je reçois un email en retour d'un Antoine Porte qui me dit allons boire l'apéro au bar Le Charonne, qui n'existe plus, mais qui est rue de Charonne dans le 11e. Et donc, on va boire l'apéro. Et donc, moi, je suis assis, je sais pas où lui, il arrive en premier, je sais plus comment.
Bon, date.
Exactement, on se retrouve. Et là, il devait être peut-être 18h, tu vois, ou 18h30, lors de l'apéro. Et puis, ça commence en fait, on a beaucoup de points communs. Les parents médecins, lui, il vient aussi de à moitié Marseille, à moitié de Nice, et puis on parle, et on boit des mauresques, comme des bons Marseillais, tu vois. Et au bout d'un moment, le patron, il dit, bon, les gars, là, je vais fermer, quoi. Et nous, ça faisait 4 heures qu'on était là, en train de, tu vois, 4 heures et demie, peut-être, je sais pas, il était minuit, le mec, il dit, si vous voulez continuer à parler, je vois que vous êtes chaud, là, rentrez à l'intérieur du bar, et puis, le temps que je fasse tout le truc et tout, vous pouvez continuer. Le mec, sympa. Évidemment, on a continué de manière un peu l'amoresque aidant encore plus débridée, à parler. Et puis, à 2h30 du matin, le mec s'est dit, bon, les gars, là, maintenant, je vais rentrer chez moi, il faut partir, quoi. Et on s'est dit, bon, là, on a trouvé quand même un vrai fit, a priori.
C'est une bonne première fois.
Et après, pendant 6 mois, on s'est donné du travail l'un l'autre, des devoirs pour savoir la faisabilité de ce qu'on voulait faire et savoir si on était vraiment très compatibles. On s'est posé les pires questions. Par exemple, on va pas pouvoir se payer pendant longtemps. Combien de temps tu peux tenir? Parce que tu comprends que s'il y a un qui peut tenir 5 ans et l'autre 3 semaines, dans un mois, on a un problème, quoi. Et toutes sortes de questions comme ça. Comment on fait? La répartition du capital, qui est-ce qui décide si on est... Bon, finalement, on est parti 50-50, qui est-ce qui décide si on n'est pas d'accord? Alors que tout le monde dit qu'il ne faut pas faire 50-50. Et donc, nous, on a décidé que sur ces périmètres-là, c'est moi qui aurais le dernier mot ou lui qui aurait le dernier mot, et on a toujours respecté ça. Et ça nous a donné une force incroyable, et encore aujourd'hui, on a cette complicité, cet alignement et cette capacité à dire, ok, ça, c'est toi. On n'est pas 100% ok, mais on s'est challengé vraiment à fond, on a accepté le challenge de l'autre, même s'il est moins légitime sur ce sujet-là, et à la fin, on a décidé, et ça c'est notre décision, et c'est pour toujours.
Lydia, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quelques millions de Françaises et de Français qui l'utilisent régulièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Lydia, tu expliques comment ?
Alors, ce qui a fait la notoriété de Lydia, et un des usages qui est encore important aujourd'hui, c'est les échanges d'argent entre particuliers, donc pouvoir se rembourser de manière instantanée, juste en connaissant le 06, le numéro de mobile, le 0607, de la personne qu'on veut rembourser. Et donc ça, c'est quand même génial, le tout gratuitement.
Puisqu'il n'y a pas de modèle économique pour cette partie-là.
Non. Et puis, au fur et à mesure du temps, et par ajout de fonctionnalités qui avaient du sens une connexe à l'autre, finalement, petit à petit, on se dirige vers... aujourd'hui, c'est un compte courant, un livret d'épargne, possibilité de faire des investissements. Et
comprends bien, c'est une banque, en fait.
Alors, on ne peut pas dire banque, parce que c'est de manière réglementaire, il faut un agrément d'établissement de crédit pour pouvoir dire banque depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, puisqu'avant, on pouvait dire banque. Bon, changement de doctrine. Mais on a des agréments de l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France qui contrôle les banques de la même manière qu'elle contrôle les établissements. Et donc, on a un établissement de paiement et une société de financement qui nous permet de faire des crédits, mais non pas avec l'argent des clients, comme les établissements de crédit, mais avec notre propre argent.
Donc c'est sur votre balance sheet, c'est sur votre compte, votre bilan à vous. Parlons de financement. Donc financement, puisque vous êtes évidemment dans le monde de la finance, de la fintech, mais et vous-même, comment vous avez été financé ? Donc on parlait de ces 40 000 personnes qui ont commencé à utiliser votre outil. La croissance a été assez rapide.
Non. Ces fameux 50 000 là sont arrivés au bout d'un peu plus de 2 ans.
D'accord.
Donc 2 ans pour 50 000, c'est long. Entre-temps, on avait eu la chance quand même d'avoir un premier financement institutionnel en juillet 2014, donc un an après lancement. Ce qui a sans aucun doute séduit à l'époque quelques business angels, dont certains sont très célèbres aujourd'hui, mais qui étaient leur premier investissement, par exemple Pauline Duval, que tu connais peut-être.
Bien sûr.
On était son premier investissement quand elle est rentrée de New York, elle aussi. Et qu'elle a commencé à rejoindre le groupe familial. Mais aussi Xange, qui a créé en nous. Mais aussi les fondateurs de Ogone, qui était une grosse boîte de paiement qui a été vendue.
Depuis ?
Non, mais à l'époque. Et ils avaient fait le plus gros exit en Europe sur les sujets de fintech. Et donc, c'est des gens qui connaissaient vraiment bien. On n'avait pas de clients, mais ils ont cru. Ils ont investi un peu plus de 3 millions.
Là, et donc là, dans tous ces financements, donc, combien vous avez levé en tout sur toute la...
240 millions.
240 millions. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Et là, ça a été des centaines et des centaines de rendez-vous. Tu me parlais tout à l'heure. Donc ça a été, toi, de prendre à chaque fois d'y aller, de te faire la plupart du temps... mettre de côté en disant ça ne nous intéresse pas. C'est 99% d'échecs pour 1% de réussite. Tu parlais d'échec tout à l'heure.
C'est à peu près ça.
Pas loin.
Ouais, à peu près ça. Il y a eu des tours où c'était un peu mieux que ça.
Parce que vous avez fait combien de fois ? Vous avez levé combien de fois de l'argent ? Tu parles de tours. Six fois.
Ouais.
D'accord. Donc
six fois.
Et avec les derniers tours qui étaient de 100 millions, plus de 100
le
millions.
Le dernier 100 millions.
Et là, parce que vous avez eu des financements pas que français, parce que là on parlait d'un, mais après vous avez.
Vraiment mondiaux.
On parlait vraiment de la Chine et des États-Unis, parce que vous avez un très beau fonds américain qui s'appelle Axel qui vous a suivi, et puis une entité chinoise connue, parce que c'est Tencent, des géants chinois. Là-dessus, comment toi tu l'as vécu ? On fait attention aujourd'hui, en particulier en Europe, et ça a été suite à la Covid, de faire attention que. Les biens, les technologies européennes restent européennes. On fait très attention, en particulier aux investissements chinois. Est-ce que ça a été assez facile ? Est-ce que l'État français a essayé de bloquer ça ? Parce que vous êtes quand même dans la poche de beaucoup de Françaises et de Français. Est-ce que ça a été une discussion ou pas du tout ?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Et on m'a souvent posé cette question de savoir si nos actionnaires chinois étaient particulièrement actifs sur le business lui-même. La réalité, c'est que ce sont des professionnels de l'investissement pur et dur. Et donc, ils ne demandent rien de plus et rien de moins que leur père américain. Littéralement, rien de plus, rien de moins. Et ils ne sont d'ailleurs pas notre premier actionnaire.
Il faut savoir, Tencent explique pour les gens qui sont là, c'est quand même ceux qui font le modèle de paiement hein, des plus utilisés ou le plus utilisé en Chine. Donc c'était pour toi.
Et de fait au monde, du coup.
Et donc pour toi, c'était quand même aussi un succès, certainement, dans le fait d'avoir ces gens qui connaissent si bien ton modèle, qui veulent vous soutenir. C'était un acte important aussi. Non,
alors, c'est une constante, depuis le début, d'avoir eu 99% de gens qui ont fermé la porte, et le 1% qui a laissé la porte ouverte, ou parfois les 2% ou 3%, c'était toujours des gens qui connaissaient bien, d'une manière ou d'une autre, ce domaine-là, et qui comprenaient que bien qu'on n'ait pas, et à l'époque on n'en avait pas de business model, zéro, donc notre ligne de revenu, c'était zéro aussi loin que tu pouvais regarder sur la ligne, se disaient, ok, ces gens-là ont une bonne compréhension de ce qu'ils font, ils gèrent bien la boîte, donc ils sont frugaux, ils font gaffe au cash, ils ont un modèle d'acquisition très peu onéreux de clients et dans des grands volumes. Encore aujourd'hui, c'est à peu près entre 100 et 150 000 nouveaux clients chaque mois avec un coût d'acquisition qui n'existe pas dans le secteur d'activité. Le coût d'acquisition moyen par client est inférieur à 1 euro.
Ce qui est, combien, rappelle-nous, pour une banque classique, c'est combien ?
Plusieurs centaines d'euros.
Donc, okay, donc ce qu'on appelle le CAC, hein, oui. Dans le terme plutôt technologique, c'est le coût d'acquisition qui est là absolument... Voilà.
Alors oui, on n'a pas de revenus.
Ouais. Mais au moins, ça coûte pas cher d'avoir des clients.
Non, et puis on est en train de, comme tu l'as dit, devenir un outil présent dans la poche d'une génération.
Les autres voient comme Bouygues et Orange et Sever voyaient Free quand ils sont arrivés, c'est-à-dire que tu rentres dans un monde bancaire qui est assez structuré,
et homogène.
Assez homogène, avec les offres à peu près similaires, avec de l'argent qui se fait à tout un tas d'endroits qui n'est pas forcément très compréhensible ou visible pour la clientèle. Toi, en fait, tu dis, est-ce qu'à terme, ton modèle où tu ne prends rien sur une partie de ton business, tu partages sur ce que tu gagnes, est-ce que c'est viable sur le long terme ? Est-ce que tu penses que la semaine dernière, si tu vas réussir à avoir des millions de clients, c'est que les autres vont faire la même chose que toi, en fait.
Alors, je...
Tu penses que tu vas avoir un impact systémique ?
Oui.
Mais tu penses que ce modèle-là, comme il est aujourd'hui, tu peux, t'as un nombre de clients minimum pour pouvoir arriver à trouver une rentabilité.
Oui. Et c'est pas si loin.
C'est pas si loin ?
Non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois qu'à une échelle qui était bien plus petite, on a déjà réussi à faire ça. Aujourd'hui, quand on a lancé Lydia, tu ne pouvais pas t'envoyer de l'argent instantanément. Tu ne pouvais pas te rembourser instantanément, à part avec du cash. D'accord ? Il n'y avait pas de solution électronique, même pas scripturale. Tu ne pouvais pas faire un chèque, c'était pas encaissé tout de suite. Ok. Entre-temps, bah, on voit bien qu'il existe des solutions pour se rembourser instantanément. Est-ce que c'est parce qu'on était là ? J'en sais rien. Mais force est de constater qu'on était là tôt et que finalement, on était juste un peu en avance sur le sens de l'histoire. Et donc, il est assez logique, le sens de l'histoire va vers plus d'instantanéité, plus de transparence, une meilleure compréhension de ce qui se cache derrière les produits, de ce qui constitue les produits, pas de ce qui se cache en vérité, de ce qui constitue les produits, et pourquoi je paye, et pourquoi je ne paye pas.
Donc l'évolution est celle-là. L'évolution, c'est que d'un système qui était de paiement dans les bars, tu as développé pour faire un système de partage, c'est ce qui s'est passé dans les campus. Et l'évolution depuis maintenant plus de 10 ans fait que c'est devenu un outil utilisé par de plus en plus de personnes. Tu parles d'une génération, je crois que votre population majeure, c'est les 18-35 ans. Tu parlais de générations qui ont grandi pour certains avec Lydia dans leur poche et de plus en plus qui se développent. Et de plus en plus sur ces systèmes de crédit, de financement, de banque, même si on ne peut pas dire.
Oui, on veut notre première étape. Clairement, notre premier objectif, c'est de devenir le compte courant de cette génération Lydia.
Vous êtes développé un peu à l'Europe, vous avez tenté, vous avez pris cher,
On a fait à peu près ce qui pouvait être le pire pour des gens qui ne s'emballent pas. Et donc, c'est quoi le pire ? C'est tu demandes à 3 étudiants d'aller te faire l'Espagne. Tu vois, toi, tu as mis toute ton énergie pendant 7 ans pour commencer à faire la France. Et finalement, tu prends 3 étudiants et tu dis, bon, tu sais quoi, toi ? tu m'as l'air bien malin. Va me faire
Madrid,
l'Espagne.
Vas-y.
Bon, et évidemment, c'est une débâcle. Et donc, on a essayé comme ça, de manière assez stupide,
dans trois ou quatre pays. Merci de partager ça.
Et dans trois ou quatre pays, contre toute attente, il s'est passé exactement la même chose. Pourquoi ? Bah, c'était la manière qui était stupide. Donc, du coup, tu peux le faire dans 500 pays si tu les trouves, mais ça ne va pas marcher. Et donc, on s'est quand même convaincu que c'était la mauvaise manière de faire et que la bonne manière de faire est d'investir massivement dans chacun des pays et que ni nos moyens, ni notre cervelle étaient capables d'être éclatés à ce point-là dans plusieurs pays et que ce qu'il fallait donc faire, c'était se concentrer exclusivement sur l'endroit où on avait le plus d'atouts et parce que la réalité, c'est que notre taille et nos moyens sont limités. Et il faut les dédier à 100% à l'endroit où ils peuvent avoir le plus d'impact. Et donc, un sujet, le compte courant, une géographie, la France.
Cyril, je te propose une autre pause amicale. On en parlait tout à l'heure. C'est un de tes premiers investisseurs, Cyril Bertrand, qui est un des patrons de Xange.
Bonjour, mon cher Cyril. Ici Cyril d'Xange. Alors voilà ma question. Si un jour Lydia devait ouvrir des agences physiques pour toujours mieux servir ses clients, est-ce que ces agences seraient aussi innovantes, aussi nouvelles que Lydia l'a été à l'époque ?
C'est une question qu'on peut traiter de deux manières. Un lieu physique pour rencontrer des clients, pour échanger, pour pourquoi pas faire aussi peut-être un peu de pédagogie, pour expliquer les produits, parce que c'est un peu compliqué quand même le monde de la banque, tu vois, pour que des gens qui ont des difficultés puissent être aidés, un peu à la façon des je ne sais pas si ça existe encore, mais des Genius Bar dans les Apple Store.
Mm-hmm. Évidemment. Existe, je confirme que ça existe encore. Hein, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, je pense.
Évidemment.
Évidemment.
Pourquoi pas ? Mais bien sûr, pourquoi pas ? Enfin,
c'est prévu.
C'est pas prévu aujourd'hui, mais pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas de raison de fuir le contact humain. Au contraire, tu vois, on fait
un guichet physique.
Mais un lieu physique pour réaliser des opérations bancaires, honnêtement, c'est pas le sens de l'histoire et c'est clairement pas le sens de notre histoire.
Merci pour la question, Cyril.
Mais surtout, voilà, c'est ça. On veut embrasser très fort Cyril parce que Cyril est le premier. On va dire Xange, l'équipe Xange, ouais. Mais notamment Cyril, puisque c'est lui qui a représenté Xange après pendant des années au bord de Lydia. C'est le premier fonds d'investissement qui s'est dit, ces gens-là ont l'air parfaitement fous, mais on va leur confier une partie de notre argent, enfin de l'argent qui nous a été confié, et peut-être qu'ils vont en faire quelque chose, et c'est des investisseurs de conviction, et ils ont fait 1000 paris, ils ont montré que c'était des vrais investisseurs de capital à risque, et pour ça, il faut les remercier.
En effet, pour ceux qui prennent ces risques-là, donc merci Cyril et merci l'équipe d'Xange. L'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure rapidement. Par rapport à ton métier, tu vois des endroits faciles pour pouvoir l'utiliser ? Tu l'utilises déjà ? Tu vois ça comme un risque ? Tu vois plutôt ça comme une opportunité ?
Alors, comme on le disait tout à l'heure, je ne vois jamais de risque dans les outils. Les outils sont des outils, c'est
comment
ce que tu en fais exactement.
Bien sûr.
Donc, si par intelligence artificielle, on prend toute la grande famille de l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est machine learning et compagnie. Alors oui, on utilise ces technologies-là depuis au moins 6 ans maintenant, ou 5 ou 6 ans chez Lydia, notamment pour les sujets liés à la lutte contre la fraude,
bien sûr.
Liés à, au service client pour la détection d'intention dans les messages qui nous sont envoyés, pour la catégorisation, pour le traitement des réclamations, pour le traitement. Donc, c'est des technologies qu'on utilise de manière très large chez l'IA et depuis longtemps. Et pour ce qui est de l'IA générative, pour les large language models, c'est des choses qu'on est en train de tester en ce moment sur effectivement plusieurs sujets, mais c'est, on va dire, aujourd'hui à l'échelle de test et pas encore à l'échelle de production.
Quel projet ça pourrait être ?
Typiquement sur service client, mais aussi sur du développement informatique.
Ça fait un certain nombre d'années maintenant, plus de 10 ans, que tu co-diriges avec Antoine Lydia. Beaucoup de questions se posent sur la fin d'un chapitre. Pour toi, tu imagines encore aujourd'hui Lydia pendant 10 ans, 20 ans ? Tu dis, il y a un moment ou un autre, il faudra que ça soit plus indépendant, que ça soit racheté par un groupe ?
Ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'on espérait pouvoir être le début d'une très grande histoire. De la même manière que nombre de fondateurs d'entreprises n'ont jamais vu la fin de leur entreprise parce qu'elle continue à se développer longtemps après qu'ils ont disparu. Et on a pas mal à la tête avec ça. On est content d'être le... Je ne sais pas s'il y avait un monsieur qui a créé la Banque Nationale de Paris et qui n'a jamais vu le groupe BNP Paribas. C'est pas grave, finalement. Et on utilise une métaphore pour ça. Chez nous, on dit qu'on construit une cathédrale. Et que, comme Anthony Gaudi, peut-être son nom est resté dans l'histoire, mais clairement, il n'a pas vu la fin de la Sagrada Familia. Quoi. Il a vu quelques immeubles, mais la Sagrada Familia, c'est non.
Qui est la cathédrale à Barcelone.
Voilà. Notre ambition n'est pas de vendre Lydia. On ne construit pas Lydia pour vendre Lydia et pour faire une opération financière. Est-ce que, pour autant, cette chose-là peut arriver? Parce que, n'oublions pas, notre ambition, c'est de faire quelque chose, pas de faire de l'argent. L'argent est une conséquence. Et donc, si on trouve... par un schéma industriel, un jour, une possibilité plus certaine de réussir cette ambition, alors, évidemment, si la contrepartie financière est là aussi, on le fera.
Donc là, quand je vois le schéma dans lequel vous êtes, votre force en France, les acteurs potentiels, là, on est quand même dans un monde qui se structure un peu plus, dans le monde de ces néobanques, comme on les appelle, qui étaient au départ souvent indépendantes, qui sont aujourd'hui de moins en moins indépendantes. On a vu Orange qui vendait sa banque récemment, on voit des fonds américains qui viennent justement pour les acheter, on voit quasiment toutes les grandes banques françaises avoir leur banque. Ça situe à peu près là, il y a quand même des chances qu'un terme, ça soit une grande banque française ou un... Non, tu ne crois pas à ça?
Je ne sais pas, et ce n'est pas mon sujet.
Moi, toutes les entreprises que j'ai montées, quand je les ai montées, je m'étais dit, parce que c'était un moyen, pas une fin, je m'étais dit, je sais à terme qui m'achètera. Je me suis planté à chaque fois parce que c'était quelqu'un d'autre. Je les ai vendues à chaque fois, mais à quelqu'un d'autre. Toi, quand tu avais créé ça, comme n'importe quel entrepreneur, avec une pression peut-être de la communauté autour de cette vente, tu t'étais dit à un moment ou à un autre, tiens, j'aimerais le vendre à telle personne. Tu t'étais dit
en fait,
ça?
Non.
Jamais.
Et encore aujourd'hui. J'aimerais pas le vendre. J'aimerais qu'on y arrive. Et que demain, ça devienne un grand groupe indépendant.
Tu penses que tu peux être indépendant?
Ah oui, oui.
Tu penses qu'il y a des possibilités que tu ne vendes pas?
Ah oui. C'est même le chemin numéro un.
D'accord. Donc Tencent ne prendra pas 100%. Mais je suis content de savoir ça, moi.
Ouais, et ça n'a jamais été leur plan non plus. Ouais. Ça n'a jamais été leur plan non plus.
Je pense que là, je pense que le gouvernement risque de te dire quelque chose si c'était le cas. En tout cas, aujourd'hui. Une pause musicale. Dis-moi, quelle est ta chanson culte?
Celle qui me vient comme ça tout de suite, ça serait Space Oddity de David Bowie.
On écoute un extrait. On va passer à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu dois me répondre du tac au tac. La qualité à avoir absolument pour être entrepreneur?
L'optimisme.
Ton film préféré?
Je sais pas. Stanley Kubrick, sans aucun doute. Ah, ou non. C'est difficile. Mais disons un des films de Stanley Kubrick.
Quel est ton plus grand regret?
Tout le temps que je n'ai pas passé avec mes enfants quand ils étaient en train de grandir.
Quel talent que tu aimerais avoir?
J'aimerais être un grand créatif, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans...
Savoir dessiner.
Voilà, dans le dessin, dans le, pourquoi pas dans la mode. Oui, j'aimerais être un grand créatif.
Un moment que tu aimerais revivre?
Probablement cette fameuse arrivée à New York quand j'étais étudiant.
Ta plus grande peur?
D'être déconsidéré par ma famille, par mes proches.
Qui aimerais-tu entendre à l'avenir dans Pause?
Des entrepreneurs qui ont raté.
Des entrepreneurs qui ont raté. Quelle est la destination idéale, selon toi, pour faire une pause?
Je pense que c'est une destination intérieure. Sinon, tu ne fais pas une pause. Tu es en train de faire autre chose.
Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux? On a compris qu'il n'y avait pas grand-chose.
LinkedIn.
Donc c'est LinkedIn, hein? Ouais. Tu réponds à peu près, t'essayes?
Ah non, je réponds toujours.
Tu réponds toujours, bah voilà. Cyril, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci Alexandre.
Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.